Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Pour une éthique écologiste. Bonjour à tous et toutes, très heureux de vous retrouver en direct des studios de Fréquence Protestante en compagnie de mon invitée Corinne Pelluchon, avec qui nous allons explorer les voies d'une éthique écologiste. Cette question de l'écologie ne se réduit pas à sa dimension partisane, d'ailleurs très faible en France, mais invite à repenser les rapports entre l'homme et son milieu. Dans une perspective philosophique, il s'agit d'interroger les limites de la liberté individuelle. Cette liberté est-elle bien individuelle ou partagée? Ai-je par exemple la liberté de consommer les ressources naturelles, dont les animaux, sans conscience de leur finitude, de leur souffrance et de ce qu'il faudrait laisser aux générations futures? Pour répondre à ces questions, il faut poser une philosophie qui part de la matérialité de l'existence et de la corporéité de l'homme, c'est-à-dire de ses besoins, mais aussi de sa faculté à consommer ce qui l'entoure. La nécessité de se nourrir est évidente et est une source de plaisir. Mais le rapport à la nature ne saurait être purement instrumental. Il faut y replacer l'homme même, en arrêtant de le concevoir comme extérieur à la nature qui l'environne. Et il faut tenir compte de la limitation des ressources dans nos modes de consommation. Nos sociétés ne peuvent plus reconduire le système de domination de l'homme sur la nature et sur les animaux, mais devraient plutôt organiser une communauté d'intérêts où le vivant aurait une place centrale. Il s'agit donc de penser une éthique écologiste, où la biosphère serait envisagée comme une maison commune des êtres vivants. Dans ce système, l'individu pourrait exercer sa liberté dans le monde, mais pas contre le monde. Bonjour Corinne Pelluchon.
Bonjour.
Corinne Pelluchon, vous êtes professeure de philosophie à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, spécialiste de philosophie morale et politique, et d'éthique appliquée notamment sur la question écologique. Je vous reçois aujourd'hui pour discuter de deux livres récents, Les Nourritures, philosophie du corps politique, c'est paru au Seuil en 2015. Et cette année, le manifeste animaliste qui est sous-titré « Politiser la cause animale » qui est sorti chez Alma Éditeur. Je voudrais qu'on commence, Corinne Pelluchon, par la question du vocabulaire. Parce qu'après tout, si on veut penser ou repenser une philosophie de l'existence, il faudrait peut-être commencer par changer les mots, en trouver de nouveaux, substituer de nouveaux mots aux anciens. Par exemple, dans votre ouvrage des nourritures, vous dites qu'il ne faut plus parler de ressources naturelles, mais plutôt parler de nourriture. Alors, quelle est la différence et qu'est-ce que fait ce changement de vocabulaire ?
Bien, vous l'avez déjà souligné, le mot « ressource » fait penser que les choses dont je vis n'ont qu'une valeur instrumentale, alors que le mot « nourriture » souligne dans son pluriel non seulement les aliments, tout ce dont je vis, mais aussi la dimension de plaisir, la dimension de plaisir esthétique attachée à mon habitation de la terre. Donc on est là dans une pensée où l'humain n'est pas un empire dans un empire, pour parler comme Spinoza, la liberté n'est pas pensée à la lumière du projet, de l'extériorité, comme si la nature n'était qu'un décor de l'histoire, mais il s'agit de s'interroger sur les conditions écologiques, affectives, sociales, culturelles de mon existence. Donc les nourritures désignent tout ce dont je vis, qui est à la fois naturel et culturel, et qui répond certes à mes besoins, mais ces derniers ne sont pas à penser comme des vides à remplir, mais il y a aussi l'activité même, par exemple de manger, me nourrit, donne un sens et une saveur ou pas à mon existence. Donc c'était vraiment le mot nourriture, je le reprenais à Lévinas qui dans Totalité infinie insiste sur le fait que les choses dont je vis, l'air, l'eau, eh bien ne sont pas des objets de ma représentation. Qu'il y a dans la nature, dans les choses dont je vis, quelque chose qui déborde ma représentation et justement que les sensations expriment et même que le plaisir exprime lui qui, dit Lévinas, fait éclater la structure élémentale du monde. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a plus dans les choses que je sens que ce que ma tête pourrait y mettre. Et encore une fois, c'est vrai, c'est vraiment l'alimentation étant le paradigme de cette philosophie du sentir qui célèbre mon être avec les choses, ce qui ne veut pas dire que je me confonde avec la nature et qu'on soit dans une sorte de holisme ou d'une pensée où on parte du tout et où l'humain n'a pas sa spécificité.
En tout cas, il faut penser, Corinne Pelluchon, que ceux qui nous environnent possède sa vie propre. Vous dites ça déborde, donc il faut aller au-delà d'une vision habituelle, au-delà d'une représentation et dans cette réflexion que l'homme peut avoir par rapport à son environnement, comprendre que précisément l'environnement est plus que ce qui environne. C'est du vivant, c'est du naturel rempli de vie.
Alors, le mot environnement suppose donc qu'on est un petit peu extérieur à lui. Donc, d'une certaine manière, il faudrait ou le critiquer ou peut-être l'abandonner. Ici, il s'agit plutôt d'une pensée de l'habitation de la terre, donc du milieu. Le milieu qui est à la fois naturel et culturel, puisque les rizières, les paysages ont été composés. C'est le sens du mot étymologique de paysage, un pango, qui vient du terme agraire, hein, planter des piquets. Hein. Eh bien, les paysages ont été historiquement institués, constitués, composé par l'humain, et il nous détermine. Donc il y a cette réciprocité entre eux et nous. Mais vraiment, ce travail-là relève de ce qu'on appelle, dans le jargon philosophique, une phénoménologie de la non-constitution. Chez Lévinas, c'est évident, alors je vais l'expliquer. Il s'agit de penser les phénomènes qui échappent à ma représentation, à ma maîtrise, qui m'arrive. Alors dans le passé, j'avais beaucoup travaillé sur la vulnérabilité, la fatigue, la mortalité, la douleur, qui souligne ma passivité, ma vulnérabilité, et autrui, qui est plus que ce que j'y mets, que j'y vois, dont je ne fais pas le tour, mais là, insistant dans ce livre Les nourritures, qui est un deuxième volet de la philosophie de la corporité que je développe, insistant sur tout ce dont je vis et qui nourrit ma vie, qui me fait plaisir quand je mange, ou le besoin vire presque tout de suite en plaisir, eh bien, on insiste sur ce qui échappe aussi à ma maîtrise, en tout cas, qui est plus que des choses dont je me sers, des outils, des ustensiles. Donc, le monde ne s'offre pas forcément à moi comme des outils, des ustensiles, mais comme nourriture. Et justement, il y a aussi là-dedans, cette réflexion, il y a l'idée que nous nous attendons de prime abord à trouver une sorte d'accord primordial entre nous et le monde. Ce qui veut dire que la déréliction, le fait d'être jeté dans le monde, eh bien c'est quelque chose qui est évidemment notre expérience quotidienne, surtout et dans un monde où il y a beaucoup de privation, de pauvreté, de faim et de malnutrition, j'en parle dans les nourritures, mais c'est lié aux conditions sociales, économiques, affectives de l'existence et pas originaire. Donc il y avait vraiment, d'une certaine manière, une réflexion sur ce que le plaisir enseigne à la condition humaine. Et il y a l'image dans les nourritures du nourrisson qui tète goulûment le sein de sa mère ou le biberon ou le jeu des bébés animaux ou bébés humains qui montre que la vie est une tension au-delà de l'instinct. Il y a quelque chose, il y a comme une gratuité. Hein, et c'est tout à fait important de voir que dans les sensations, il y a cette expression d'un accord, d'une complaisance dans les nourritures que bien sûr viendra interrompre tous nos problèmes.
Votre philosophie, Corinne Pelluchon, vous conduit au dépassement du clivage nature-culture. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ça veut dire qu'il faut réinsérer, au fond, les pratiques humaines dans la nature, repartir du fait que l'homme est aussi un être naturel et que donc son rapport à la nature ne relève pas du culturel, il relève du naturel. Comment vous l'expliquez?
Il relève du culturel. Il y a une co-institution entre nous et les paysages, justement. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un dépassement du dualisme. Pourquoi? Ou peut-être des dualismes. Hein. On va prendre le dualisme nature-culture, mais on pourrait aussi ajouter le dualisme raison-émotion, humain-animal, etc. Le dualisme, ça veut toujours dire qu'il y a une vision binaire des choses et qu'il y a un terme qui doit dominer l'autre. Hein. Donc, quand on veut dépasser le dualisme, il faut non seulement dépasser cette vision binaire du monde, mais aussi redéfinir le rapport de l'un à l'autre. Et ça ne veut pas dire la confusion ou le fait de mettre sur le même plan, par exemple, l'humain et l'animal, ou les animaux, comme on le verra tout à l'heure. Mais le dualisme, pourquoi il nous rend le dual nature-culture? Eh bien, celui qui existe dans les grandes philosophies de la liberté, que j'admire beaucoup, celle de Kant par exemple, c'est vrai que l'homme est pensé comme arrachement à la nature, et la nature un petit peu comme un décor de l'histoire, et du coup il devient difficile de penser justement la protection de la biosphère autrement que comme une injonction qui viendra s'ajouter aux finalités classiques de l'État, la réduction des inégalités iniques entre nous et la sécurité entre nous. Or, et donc du coup si on veut faire entrer l'écologie dans nos vies pour changer nos styles de vie qui sont requises si on veut répondre à la crise environnementale actuelle et si on veut faire entrer aussi l'écologie dans la politique, eh bien il s'agit de dépasser ce dualisme et d'articuler l'écologie à une philosophie d'existence, à une réflexion sur la condition humaine. Et là, je dirais pour finir qu'il y avait une autre difficulté expliquant notre impuissance à faire entrer l'écologie et dans nos vies, dans la politique, c'est que les éthiques environnementales existantes, finalement nées dans les années 70, étaient souvent des écocentrismes, on partait du tout, hein, il fallait protéger le tout, etc. Mais d'une certaine manière, elle reconduisait le dualisme nature-culture qu'elle critiquait parce que finalement, c'est comme si elle faisait à croire qu'on peut décider d'une politique environnementale en partant de normes comme ça, qui sont bien loin de faire consensus, comme l'acceptation d'une valeur non instrumentale de la nature, la réduction de la natalité, etc. Donc pour combler, si vous voulez, pour pallier les failles des grandes éthiques environnementales que j'admire également, eh bien j'ai essayé d'articuler l'écologie à une philosophie de l'existence et j'ai pris comme point de départ l'alimentation parce que quand je mange, je ne suis jamais seule à ma table, j'ai toujours un impact sur les personnes qui produisent les nourritures, sur la production, sur les animaux et donc du coup ça veut dire que ça fait surgir un sujet relationnel et que la protection de la biosphère, le partage des nourritures et pas seulement des ressources et la prise en compte des intérêts des animaux s'ajoute aux finalités classiques du politique. Donc à côté de la réduction des inégalités ethniques entre nous et de la sécurité entre nous s'ajoute justement l'écologie, la prise en compte des intérêts des animaux. Donc on a ici quelque chose qui élargit ou qui complète le libéralisme politique jugé un petit peu impuissant pour répondre aux problèmes que nous affrontons aujourd'hui.
Je ne suis jamais seule à ma table, dites-vous Corinne Peluchon, et dans ce rapport aux nourritures, il faut penser à un individu dépendant des autres. Alors en quel sens? C'est-à-dire au sens où ce sont les autres qui me nourrissent, au sens où j'ai besoin des autres pour me nourrir?
Il y a les deux. C'est vrai que par exemple, quand on prend l'alimentation, qui est une manière de penser la réceptivité du sujet, il y a le rappel, la mémoire de la manière dont nous avons été nourris et des personnes qui nous ont nourris. Donc il y a dans la dimension d'alimentaire, cette dimension affective, symbolique, très forte, culturelle. Mais c'est vrai que moi, j'insistais aussi, et peut-être surtout ici dans ce livre, sur le fait que nous sommes toujours en contact avec les autres, même quand nous ne voulons pas le voir ou nous l'avons oublié. Par exemple, le fait que nous sommes nés, que nous sommes engendrés, que finalement nous ne devons la vie non seulement à deux autres personnes, mais aussi qu'il y a, comme disait Paul Ricoeur, le trouble de plusieurs existences derrière la mienne, cette lignée ombilicale des vivants qui a fait que bien un être qui naît est vieux de tout un tas d'êtres derrière lui. Eh bien, cela établit l'intersubjectivité au cœur du sujet. Donc, c'est pas comme dans l'éthique du care ou de l'éthique de la sollicitude, l'idée de la dépendance réciproque entre nous liée à notre fragilité. Ça, évidemment, important, cela. Mais c'est aussi l'idée que, si vous voulez, l'individu coupé du corps et coupé des autres, qui est finalement celui qui a été au fondement de la théorie politique de Hobbes à Rawls, eh bien, est une fiction théorique. Une fiction théorique géniale, parce qu'il fallait asseoir l'État sur un être, abstraction faite de ses appartenance pour que justement on fonde un État laïque, pour qu'on fonde, on reconnaisse des droits à chaque être humain. Mais je crois que ce faisant, nous avons gommé au fil des siècles cette appartenance, ce lien avec les autres vivants et avec les milieux, et que justement, moi, c'est ça que j'essaie de faire ressortir par la méthode phénoménologique où il s'agit de décrire l'existant dans la matérialité de son existence, quand il mange, quand il est né, quand il prend place au niveau de l'espace, il prend de la place, et ça montre que l'éthique, eh bien, commence dès que je mange. Le rapport aux nourritures est le lieu originaire de l'éthique. L'éthique signifie la place que je confère aux autres êtres humains et non humains au sein de mon existence.
Parmi ce dont l'homme a besoin pour vivre, ce dont il croit avoir besoin, il y a les animaux. On va écouter des interviews extraits d'une manifestation contre la fourrure à Paris en 2013. C'était filmé par Télé Bocal.
Nous sommes place de la République à Paris. C'est la manifestation contre la fourrure des animaux.
Super.
Alors, lutter contre la fourrure.
C'est ça. C'est pour ça que vous en mettez, mais de la faux, j'espère.
C'est de la récupération. L'argent représente la mort, tout simplement.
Donc c'est pour ça que vous vous permettez de porter une véritable fourrure qui est ensanglantée.
La fourrure, c'est porter de la mort, c'est porter un cadavre. Je mange pas de viande, je suis végétarienne et j'essaye de devenir végétalienne.
Vous êtes venue là pour dire quoi, mademoiselle?
Voilà, stop à la torture, stop à la fourrure. Voilà, laine, cuir, soie, voilà. Tout ce qui a trait à l'exploitation animale, c'est inutile. C'est dur de faire changer les mentalités, mais déjà, si les gens arrêtent déjà la fourrure, ce serait une première étape pour ensuite arrêter le cuir. Et là, on parle de la fourrure parce que l'hiver approche et que ça va ressortir. Mais bien sûr, il faut lutter contre toutes les formes d'exploitation animale.
Voilà, je suis absolument contre la fourrure. C'est une pratique absolument horrible.
Et donc, tu es très triste. C'est même des larmes de sang que tu es en train de
faire. Oui, c'est des larmes de sang parce que les gens ne se rendent absolument pas compte de ce qu'ils ont sur leur capuche. Et quand on voit les jeunes filles de mon âge qui ont de la fourrure, qui pensent avoir du style alors qu'elles ont du sang sur elles. Et voilà, comme dit mon t-shirt, la fourrure, c'est la mort. Et honte à elles, honte aux gens qui portent de la fourrure et aux élevages.
La valeur de l'homme, pour une éthique écologiste, nous sommes en compagnie de Corinne Pelluchon. Alors, la cause animale, Corinne Pelluchon, ce n'est pas que la viande, ce sont aussi tous les produits issus de l'animal qui appellent une violence contre cet animal. Et puis, c'est aussi tout ce qu'on oublie, je dirais, dans l'exploitation de l'animal, donc les cirques, les zoos, les delphinariums, la corrida. On peut peut-être en dire un mot, puisque ça revient au sujet qu'on évoque là depuis le début,
oui,
du rapport à l'environnement et à la nature.
Oui, absolument. Alors d'abord, un mot sur la fourrure, puisque c'était tout à fait intéressant. Il faut savoir que certains pays européens ont interdit la fourrure, hein, et je pense qu'on pourrait emboîter le pas, parce que comme dit la jeune fille qui a été interviewée, ce serait une première étape, et je crois qu'aujourd'hui, même des personnes qui consomment des produits animaliers pour leur nourriture sont d'accord pour reconnaître qu'il n'est pas utile de porter de la fourrure quand on sait surtout ce que ça coûte à l'animal qui est souvent tué dans des conditions abominables. Hein. C'est pire que les abattages dans les abattoirs. Par exemple, les renards, on met une électrode dans l'anus et sur le museau, ils brûlent de l'intérieur. Donc, je veux dire que c'est comme ça. Hein. Et c'est vraiment une misère, une torture. Et en plus, il faut savoir que la production de fourrure sert non pas à des manteaux, mais plutôt à des capuches, a été dit aussi, ou à des jeux. Exactement. Donc du coup, voilà, ça sert à rien. Et c'est vrai que si les personnes continuent d'en porter, c'est parce que à la fourrure a été attachée une idée de prestige. Mais c'est du passé tout cela. Je pense que vraiment, il est assez facile de déconstruire les représentations culturelles associant la séduction à la fourrure. Je crois dans les années 70, dans les films, toutes les femmes avaient des fourrures. Bon, maintenant les gens savent de quoi il s'agit. Je pense qu'il est temps d'arrêter. Et ça pourrait faire l'objet d'un consensus. Un consensus, c'est quelque chose de difficile. Vous le savez, vous qui êtes en sciences politiques, c'est pas un compromis, c'est quelque chose qu'on construit et qui suppose pas qu'on va abolir les différences, mais qu'on va les exprimer. Mais je crois que chacun et chacune peut reconnaître qu'il y a un certain nombre de pratiques qui, en 2017, peuvent être supprimées, sans, à condition évidemment qu'on aide les personnes qui vivent de ce travail à se reconvertir et que, dans un monde plus juste envers les animaux, ces personnes-là ne soient pas délaissées et au chômage. Mais vraiment, là, c'est important. Et à propos des autres pratiques qui pourraient être supprimées et faire l'objet d'un consensus dès maintenant, eh bien, je crois effectivement que la fermeture des delphinariums, qui ne sont acceptés que parce qu'il y a une distorsion de la communication, où on faisait croire que les dauphins étaient très heureux dans une piscine chlorée, parce que c'est vrai que le dauphin, quand on le voit, on a l'impression qu'il sourit, mais effectivement, ils développent des stéréotypies, et puis ils ne sont pas faits là hein, pour vivre dans une petite piscine, ou finalement, qui sera toujours petite par rapport à leurs besoins éthologiques, puisque le dauphin a besoin de parcourir environ 100 km par jour hein, pour se sentir bien. Et puis, les orques, c'est 150. Et puis, elles ont besoin de sonder, l'océan, les profondeurs de l'océan. Enfin, bon. Et donc, ça, c'est très important. Les cirques avec animaux, le cirque Bouglione a décidé, et c'est très courageux, c'est très beau de sa part, de laisser les animaux qu'il a, qui sont assez vieux, mais de ne plus en prendre. Donc, il arrête les cirques avec animaux. Et je pense que c'est vraiment une bonne idée, parce que les éléphants ne sont pas faits pour être trimballés de ville en ville et pour faire des tours, s'asseoir sur un tabouret, je veux dire. Donc du coup, je pense que ça honore tout à fait les personnes qui font cet effort, et je crois qu'on peut l'encourager parce que c'est assez facile. Il y a beaucoup de pays qui ont arrêté le foie gras, je le souhaiterais. Quant à la corrida, c'est un peu compliqué parce que, alors bien sûr, moi je souhaiterais l'abolition de la corrida. Hein. Je pense que la corrida est vraiment, c'est même non négociable à mes yeux. Mais je pense que pour cela, il faut comprendre ce que les personnes qui aiment la corrida y mettent et respecter cela. C'est vrai que beaucoup, les aficionados, considèrent que le taureau, quand il est tué, il représente cette majesté, eh bien, c'est un peu le rapport à la mort, le rituel. rebelles dans un monde qui est un peu hygiéniste, etc. Et c'est souvent ce qu'ils disent. Donc je crois qu'il faut les amener peut-être à, d'abord, faut échanger avec eux, et surtout à dire qu'aujourd'hui, le rapport à la mort ne passe sûrement pas par le fait d'avoir du plaisir à voir un animal herbivore, innocent, supplicié. Et que justement, on peut développer d'autres rituels et d'autres manières de regarder en face la mort sans passer par ces spectacles auxquels ils mettent beaucoup de représentations culturelles, mais, et ça, il faut le respecter, mais je pense qu'on peut changer l'objet. Vous voyez, c'est comme en Angleterre, ils ont aboli la chasse à cour, je pense qu'on devrait faire pareil en France, mais, eh bien, ils gardent le jeu, mais sauf qu'il n'y a plus d'animal qu'on poursuit, mais c'est des balles, enfin, les chiens comme ça, avec les équipages demeurent, mais il n'y a plus la mise à mort abominable de l'animal. Donc, je pense que c'est des choses à suivre.
Et dans le cas de la corrida, dans votre ouvrage Le Manifeste Animaliste, vous rappelez le paradoxe français qui est que, globalement, la corrida est interdite partout, sauf dans trois régions ou départements où là c'est considéré comme une tradition culturelle
locale,
ininterrompue
et
donc là c'est autorisé, donc il y a la loi est très flottante en réalité.
C'est-à-dire qu'on pourrait, ce sera très facile d'abolir un petit alinéa pour justement abolir la corrida, mais je crois que profondément, voyez, je crois qu'on ne pourra faire avancer les choses que si on discute avec les personnes qui tiennent à la corrida et en voyant ce qu'elles y mettent et en les invitant à changer la manière dont elles expriment ce rapport tout à fait intéressant à la mort, cette confrontation à la mort. Si on ne voit pas cela, on est amené à une opposition, à des conflits sans qu'il y ait du tout, ce sera toujours pro et contra. Et je dis ça alors que moi je me situe vraiment du côté des contrats. Mais je crois que quand on veut chercher, vous êtes en sciences politiques, je suis en philosophie politique, nous savons quand l'éthique c'est pur, la politique ça l'est moins puisqu'il faut discuter avec des autres et ces autres ne partagent pas forcément nos représentations, nos opinions, etc. Donc il faut faire un pas de côté, mais il faut aussi évidemment convaincre, et moi j'essaie, je mouille ma chemise dès que je le peux pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus, j'espère qu'il y en a à l'antenne et que je vais les convaincre, et je crois que vraiment on peut arriver. Et sans doute l'avenir est sans doute à la suppression de la corrida, un avenir assez proche, moi je le pense, parce que la plupart des villes qui ont des corridas ont besoin de subventions publiques. Et ce que je n'ai pas manqué de rappeler dans ce petit texte, le manifeste animaliste.
C'est financé collectivement. On va écouter le début d'une vidéo institutionnelle mise en ligne en 2015 par l'association L214 de protection des animaux.
Imaginez un monde.
Un monde en paix avec les animaux.
Un monde où chaque animal est libre d'exister, de courir, de jouer, d'élever ses petits et de vivre pleinement. Un monde où les animaux ont eux aussi droit au bonheur. Ce monde, nous le bâtissons avec vous.
Cette année encore, L214 était au plus près des animaux pour les défendre.
Les images de l'abattoir d'Alès ont fait le tour de la France et des médias.
Les abattoirs, c'est un lieu très violent pour les animaux parce que c'est là qu'ils perdent la vie, etc. Et là, il y a des manquements à la réglementation qui sont flagrants sur toutes les espèces, ce qui fait que ça va surajouter la souffrance aux animaux.
L'abattoir a temporairement fermé et une enquête est ouverte pour acte de maltraitance sur les animaux. Avec plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux et plus de 250 000 signatures pour notre pétition, la réalité de l'abattage des animaux est au cœur de tous les débats.
La valeur de l'homme, pour une éthique écologiste, nous sommes en compagnie de Corinne Peluchon. Un mot peut-être sur la question de la défense des animaux, qui est une cause qui s'est énormément développée en France et aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. On entend souvent le mot spécisme. Et donc les militants de la cause animale se définissent comme étant antispécistes. Alors antispéciste, Corinne Peluchon, qu'est-ce que le spécisme ?
Alors c'est un terme qui a été forgé par un psychologue d'Oxford en 1971 et popularisé par Peter Singer en 73 puis en 75 dans son best-seller Libération animale. Le spécisme, donc le mot est récent, mais la chose existait avant chez Jeremy Bentham dans son livre Principes de la morale et de la législation publié en 1789. C'est l'idée d'une discrimination donc injuste fondée sur l'espèce, qui était comparée d'ailleurs chez Bentham au racisme et au sexisme. Et c'est l'idée que l'appartenance à l'espèce ne suffit pas à interdire à un être sensible, plutôt sentient, je vais expliquer ce terme, d'être protégé, de vivre... voilà. Ça, donc c'est l'idée, vous voyez, l'antispécisme, c'est l'idée qu'il s'agit de prendre... prône l'égalité de prise en compte des intérêts, mais cela n'implique pas l'égalité de traitement. Autrement dit, l'antispécisme ne postule pas que les animaux et les humains sont identiques, parce que d'abord, ils n'ont pas besoin des mêmes choses pour s'épanouir, mais il postule qu'il est injuste d'empêcher un être de s'épanouir et de voir ses besoins de base rendus... il est injuste de faire en sorte de détenir un être sensible en l'empêchant d'exprimer ses besoins de base. Et le mot sensible même, il faut le préciser, parce que la plante aussi est sensible, mais elle n'est pas sentiente. Un être sentient, eh bien, c'est un être qui est non seulement capable d'exprimer la souffrance, donc un contenu psychique de la douleur, l'ennui, etc., mais qui est capable d'exprimer ses préférences individuelles. C'est-à-dire qu'il est vraiment individué, il y a un soi vulnérable, il y a quelqu'un derrière la plume et les fourrures, ce que toute personne qui a un animal de compagnie sait. Et en plus, il est capable aussi de communiquer aux autres sa résistance à l'égard des conditions de détention qu'on lui impose. Donc il y a vraiment l'idée d'être sentient, c'est-à-dire que c'est un sujet compétents. Les animaux savent comment vivre, etc. Donc du coup, l'antispécisme, moi je préfère le mot animalisme, parce qu'antispéciste, il y a mot anti dedans, ça fait toujours, on va désigner ceux qui ont les préjugés spécistes. Pourquoi j'aime moins ce mot? Parce que nous sommes tous nés dans une société spéciste, où on nous disait que les animaux étaient là pour nous servir, où toute l'économie a été fondée, bâtie sur l'exploitation sans limite des vivants. Des autres vivants, en particulier depuis la révolution industrielle et depuis la Seconde Guerre mondiale, où il y a une généralisation d'élevage intensif. Donc nous sommes tous, et le jour, il y a peu de personnes, mais de plus en plus aujourd'hui, mais quand même peu, qui ont ouvert les yeux sur ce que cela impliquait pour les animaux, cette souffrance intense et par milliards. Donc du coup, et c'est vrai que le fait de le reconnaître, c'est quand même un choc, un cataclysme qu'il faut accompagner. Donc le mot antispécisme, moi, je l'aime moins parce qu'on a tendance à désigner ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux. Mais animalisme, je le préfère parce qu'il veut dire que, justement, il s'agit de prendre en compte les intérêts des animaux dans notre vie et même dans nos politiques publiques. Et que, pour moi, en tout cas, l'animalisme est peut-être le nouveau visage aujourd'hui de l'humanisme, un humanisme de la diversité et de l'altérité.
L'animalisme a pour objectif très clair de mettre fin à la mise à mort des animaux d'une façon générale et en particulier pour l'alimentation humaine.
Alors, l'animalisme, c'est un mouvement social, philosophique, culturel, qui rassemble toutes les personnes et les associations qui souhaitent améliorer le sort des animaux partout où ils se trouvent. Et qui, alors sans doute, même assurément, et c'est mon cas, la reconnaissance, la prise au sérieux de ce que veut dire la sentience implique qu'on ne peut plus exploiter les animaux, en tout cas que c'est injuste. Donc on ne va pas les manger, on pourra les utiliser, pas les exploiter. Je distingue les deux. Utiliser, ça veut dire, par exemple, avoir un animal de compagnie, voire un chien aveugle, etc., à condition qu'il ait été bien élevé sans être trop dressé durement. Hein. Mais exploiter, ça veut dire qu'on en tire le maximum de profit sans faire attention à la valeur de sa vie, à ses besoins propres et à son agentivité. Mais vraiment, donc je pense que effectivement, l'horizon lointain, c'est sûr, la fin de l'exploitation. Néanmoins, les choses, l'état, la condition animale aujourd'hui, en 2017, dans le monde, est tellement horrible que déjà, on améliorerait de manière substantielle ces conditions. Et je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire et mettre d'accord des gens, même des carnivores et des véganes. Et déjà, si on faisait ça, ce serait un grand pas. Or, je ne le vois pas encore. Je ne le vois pas dans les précédents gouvernements. Je l'attends de celui-ci. On verra bien.
Les mentalités ont quand même beaucoup évolué. Cette cause-là est devenue très forte. On terminera par là. Mais le message que vous portez, il arrive dans un contexte relativement favorable quand même.
Alors oui, tout à fait. Moi, le premier texte que j'ai écrit sur les animaux, c'était en 2009. Hein, et c'était loin d'être partagé comme cela. Mais moi, par exemple, j'ai écrit ce manifeste animaliste en mettant entre parenthèses provisoirement un ouvrage de fond que je vais finir cet été. Parce que je sentais que la question animale était entrée dans la cité, mais elle n'était pas encore structurée. structurée suffisamment et de manière suffisamment stratégique et généreuse pour entrer en politique. Donc il s'agissait d'accompagner ce mouvement afin que de force sociale, il devienne une force politique. Et j'espère que certains représentants ou tous les représentants et les personnes encore perplexes, c'est-à-dire qui se posent des questions sans savoir concrètement comment vivre avec cela, eh bien, elles me suivront au moins en partie, puisque ce livre a été écrit aussi pour eux, pas seulement pour les militants, mais pour donner des clés pour au moins avancer maintenant.
Je vous remercie beaucoup pour votre présence, Corinne Peluchon. Cette émission s'achève. Alors, les auditeurs qui voudraient vous lire, donc il y a beaucoup d'ouvrages. Je signale donc ceux pour lesquels je vous ai invité aujourd'hui en particulier. On n'a pas pu tout aborder, évidemment. Les nourritures, philosophie du corps politique aux éditions du Seuil en 2015 et le manifeste animaliste Politiser la cause animale chez Alma Éditeur en 2017. Merci à Emmanuel Demisco à la technique. On se retrouve dans 15 jours pour la dernière émission de la saison. À bientôt.